OK, alors bienvenue tout le monde. On est dans le cours L'âme sœur. Bienvenue Justin dans L'âme sœur. je me présente, je m'appelle Yannick Étier, pour ceux qui écouteront le cours peut-être en audio. Et puis ce matin, on va couvrir, si Yannick est efficace, la leçon 3. D'accord? On va compléter la leçon 2, puis on va aller voir la leçon 3 ensemble. Et les feuilles de notes du cours sont sur une petite table juste là à l'entrée. Vous pouvez vous prendre une copie des notes de cours. Vous pouvez aussi bientôt, dans un cinéma près de chez vous. Non, mais bientôt sur le site web, vous allez pouvoir trouver, parce qu'on m'a dit que ce n'était pas tout à fait là encore. Sur le site web, vous allez pouvoir trouver donc les copies en format PDF des notes de cours et puis un fichier audio aussi pour rattraper les leçons manquées. Donc, je ne sais pas si c'est déjà rendu. Là, sur le... Non, hein? OK, on est en train de travailler là-dessus. Là, on a quelqu'un qui s'occupait de ça cette semaine. Donc, vous devriez être en mesure d'aller trouver ça. C'est bon? On va aller ensemble dans un mot de prière. Bien, Père éternel, on veut te bénir, vraiment te bénir, Seigneur, pour ce temps en Église. Merci pour tous ceux et celles qui sont ici ce matin, Seigneur. Merci pour ce désir de venir se placer sous le ministère de ta parole. On a besoin, Seigneur, d'apprendre à apprécier, Seigneur, tes plans, tes projets pour nous, dans toute leur richesse, dans toute leur diversité. Et parfois, Seigneur, il y a des sujets qui sont plus délicats, qui sont plus personnels, des fois aussi qui sont plus complexes même à bien saisir. Où est ton cœur par rapport aux fréquentations, par rapport au mariage, par rapport au célibat, Seigneur? Alors, on te demande de venir nous bénir ensemble ce matin. Je te prie, Père, d'être avec moi, afin que dans mes communications, vraiment je sois bien fondé dans ta parole, mais aussi sensible. Donc, je te demande de me donner un esprit de douceur, une clarté, pour communiquer, Seigneur, ta pensée à toi sur ces beaux et grands sujets. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Je vous ai encouragé à m'envoyer des questions. Hein? Des fois, là, ça m'aide juste à mieux saisir certains questionnements, certaines réflexions que vous avez. Et puis, donc, on a reçu une question de Martin de Laval. Non? On a reçu une question de quelqu'un par rapport à la semaine dernière lorsqu'on parlait du don, le don de célibat. J'ai trouvé la question super pertinente. La personne nous demandait, elle dit, je vais vous la lire, OK? Ça va être plus simple pour moi. Juste ici. Salut Yannick, en réfléchissant aux différents appels, célibat temporaire, mariage, je me demandais simplement si, dans le fond, les célibataires n'avaient que deux choix, être appelés au célibat pour tout le temps ou pour un temps. Je me demande si on devrait se questionner sur l'appel au mariage, seulement si on fréquente ou qu'on a quelqu'un en vue. Parce que sinon, ça veut dire que tu te maîtrises et que tant qu'à ça, reste seul, comme dit Paul. Si on n'est pas en couple qu'on dit être appelé au mariage, ce n'est pas... comme si on disait qu'on file, qu'on va bientôt rencontrer quelqu'un. Donc, sa question, c'était, dans le fond, t'as la conviction d'être appelé pour toujours au célibat, ou bien t'as la conviction d'être appelé peut-être temporairement, mais tu te questionnes pas à ce moment-là. Si Dieu place quelqu'un sur ton chemin, bon, ben ça serait ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait fonctionner avec ça? Puis c'était une bonne question. Je pense que certaines personnes... Et dans l'expérience, et bibliquement, il y a certaines personnes qui vont avoir une conviction à un certain moment dans leur vie qui ne sont pas appelées à se marier, tout simplement. Comme jamais dans leur esprit. C'est pas pour l'instant, j'y pense pas. Pour l'instant, je ne suis pas appelé à ça. Mais dans mon cœur, je ne suis pas appelé au mariage. Puis des fois, ça va s'installer plus tard dans la vie. Bon, donc, il y a des personnes qui vont le vivre comme ça. Les autres personnes vont avoir un désir de se marier, mais... ça se peut, comme je le disais la semaine dernière, j'ai donné l'exemple, par exemple, avec des jeunes de 17 ans qui, à un moment donné, réalisent qu'il n'est pas question que je commence à courir après le mariage à 17 ans. C'est trop tôt. Ça ne va pas donner des relations saines à cet âge-là parce qu'il n'est pas question que je me marie avant plusieurs années. Puis, dans un certain sens, vont donc embrasser leur appel à ce moment-là de leur vie à vivre le célibat. Puis, ils vont le vivre volontairement. Mais qu'est-ce qui arrive avec la personne qui dit « Ouais, mais j'aspirerai à me marier, mais il n'y a personne devant moi. » Puis donc, j'arrive à vivre mon célibat, donc je me maîtrise, donc je ne devrais peut-être même pas aspirer au mariage. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez la question? Je ne vois pas l'apôtre Paul aller jusque-là du tout. Il y a un contexte de tribulation, c'est clair, dans Corinthiens. Il y a un contexte de souffrance. Fait que je ne vois pas l'apôtre Paul aller jusque-là puis dire, bon, ben dans le fond, si tu arrives à te maîtriser, tu ne devrais pas aspirer au célibat. Tu ne devrais pas aspirer au mariage, quand Paul adresse cette question-là, laissez-moi renverser la question, est-ce que je pourrais aller jusqu'à dire que Paul accepterait qu'un célibataire ne se maîtrise pas? Tous les célibataires sont appelés à se maîtriser. En fait, même tous les gens mariés, dans un certain sens, sont appelés à se maîtriser. Parce que tu es appelé, hein, tu es marié à une personne, tu n'es pas appelé à convoiter d'autres femmes ou d'autres hommes. Donc, la maîtrise de soi va toujours. On doit tous poursuivre ça. Fait que, je ne sais pas, j'essayais de réfléchir là, de manière pratique puis de placer ça en ordre avec ce que Paul apporte. Puis je ne pense pas qu'il y ait une difficulté du tout, même dans la théologie de Paul, à aspirer au mariage. Ce n'est pas quelque chose qui devient malsain en soi. Mais il y a une espèce de tension qu'on trouve dans les lettres de Paul. Puis je vous avoue que je commence à peine à réfléchir avec ça. J'en jasais avec notre futur docteur, M. Marquis, hier soir. Il y a une tension, selon moi. Quelqu'un d'autre m'a posé une bonne question aussi dimanche dernier. Il dit, on dirait comme que Paul ne voit pas le mariage comme le reste de la Bible voit le mariage. La Genèse commence avec « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », puis Paul arrive et il dit quasiment « Il est bon que l'homme soit seul. T'as-tu un problème avec Dieu, mon Paul? » Mais j'ai l'impression, puis je vous partagerai quand ma réflexion sera plus aboutie, là. J'ai l'impression qu'il y a une tension, là je m'excuse si je m'en vais dans du jargon un petit peu, il y a une tension eschatologique dans le fait que Jésus est venu, puis à partir du moment où Jésus vient, puis Jésus remonte auprès du Père, on entre dans les temps de la fin. On est dans les temps derniers et on vit dans l'attente de Christ, du retour de Christ. Et les chrétiens ne vivent pas comme les Juifs, c'est-à-dire que les chrétiens ne s'installent pas. L'image dans l'Ancien Testament, le royaume de Dieu devient visible par une installation physique. On est appelé à vivre sur la terre, puis beaucoup de nos bénédictions même qui nous viennent sur la terre sont des illustrations de la bénédiction de Dieu. L'emphase est beaucoup plus forte, même sur l'abondance que Dieu va donner dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Alors que dans le Nouveau Testament, ton abondance, c'est la famille de Dieu. Ton abondance, c'est les fruits spirituels. Dieu pourvoit pour que tu puisses aider. C'est là dans l'Ancien, mais dans le Nouveau, il y a vraiment une emphase. Quand tu arrives dans le Nouveau, le croyant est appelé à vivre comme un pèlerin. On n'est pas sédentaire. Le royaume de Dieu n'est pas visible de la même manière qu'Israël avec un peuple physique, avec un territoire physique. Le royaume de Dieu est partout là où il y a des chrétiens qui sont en train de vivre les valeurs du royaume. Et donc, j'ai l'impression qu'une bonne partie de cette tension-là se résout dans l'idée qu'à partir du moment où Jésus vient, puis Jésus monte au ciel, on entre dans les temps de la fin, puis le chrétien est appelé à vivre tous les jours comme si Jésus revenait aujourd'hui. Avec mes biens matériels, j'accumule par sagesse pour prendre soin de ma famille, mais oups, Dieu place un besoin devant moi, puis ça serait un geste un peu fou, un peu comme... Mais en même temps, Jésus revient peut-être aujourd'hui, puis j'ai l'opportunité de faire du bien, je vais aller faire du bien, tu sais. Fait qu'il y a comme une espèce de tension. Fait que je crois qu'une partie de la réponse se trouve là. Donc, ce que je dirais, c'est que si je crois dans mon cœur, ce que je désire, c'est de me marier un jour. Donc, je ne sens pas vraiment un désir ou un appel à rester célibataire, mais c'est clairement pas là devant moi. Je vais vivre aujourd'hui mon célibat entièrement. Et aujourd'hui, je vais servir le Seigneur dans l'optique que Jésus revient peut-être aujourd'hui. Et donc, dans ce sens-là, je vais embrasser cet appel-là, au moins temporaire, qui est mon célibat. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas prier, puis je ne vais pas dire, Seigneur, si tu as quelqu'un, si mon appel c'est au mariage, parce que j'ai un désir dans mon cœur qui est là, mais prépare cette personne-là, puis qu'elle soit sur mon chemin. Mais c'est plus important pour moi de vivre mon appel aujourd'hui, parce que Jésus revient peut-être aujourd'hui, que de vivre dans l'expectative de pouvoir me marier dans un an, dans deux ans. Est-ce que vous me suivez? Ce qui devient important, c'est aujourd'hui vivre pour Jésus. Maranatha, j'attends que Jésus revienne. Ça, c'est mon focus. Puis en réalité, c'est là que j'ai hâte de faire aboutir cette pensée-là puis de peut-être pouvoir réenseigner là-dessus. En réalité, c'est censé aussi changer ma vision du mariage. Parce que... La vision très romantique du mariage est beaucoup plus présente dans l'Ancien Testament, avec le Cantique des Cantiques, j'ai prêché là-dessus. C'est dans la Bible, là. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est plus là. Je suis en train de dire que l'emphase est moins grande. La vision très romantique du mariage est beaucoup plus présente dans l'Ancien Testament. Puis quand on arrive dans le Nouveau Testament, la romance du mariage, c'est de réaliser que mon mariage est là pour illustrer l'Évangile. C'est là qu'est la plus grande romance du mariage. Ce qui est romantique dans le Nouveau Testament, c'est de réaliser qu'Esther et moi, dans notre amour l'un pour l'autre, dans la manière qu'on s'aime, on est censé illustrer l'Évangile l'un envers l'autre puis envers nos enfants. Ça, c'est pas aussi présent comme ça dans l'Ancien Testament. Fait que ce que ça veut dire, c'est que mon mariage n'est pas comme je voudrais qu'il soit. Il ne m'apporte pas tout ce que je veux. Mais ça se peut que Jésus revienne aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, par mon attitude, par mes agissements, par ma manière d'agir, je peux entièrement embrasser mon appel d'être marié aujourd'hui, même si mon mariage ne m'apporte pas tout le bonheur que moi je désirais. Jésus revient peut-être aujourd'hui. Fait que mourir à moi-même puis aimer ma femme, c'est correct. Je vis dans l'expectative. Fait que j'ai l'impression que cette tension-là, où le chrétien vit dans la fin des temps tous les jours, dans les temps de la fin, c'est quelque chose qui vient éclairer ces questions-là. Est-ce que j'ai bien mêlé tout le monde? Est-ce que ça vous aide un petit peu? Vas-y, vas-y. Il y avait François avant toi Sam. Il n'y avait pas ça, je peux te l'assurer, là. Mais fait, vas-y, ça aurait pu être le cas. Oui, oui. Fait que je vais juste répéter pour l'enregistrement. Donc, François émet l'hypothèse. Quelqu'un qui se poserait cette question-là pourrait douter de la bonté de Dieu à quelque part, comme si Dieu jouait avec des désirs qui sont en nous, auxquels on est obligé de renoncer. Puis ce que François mentionne, c'est que lorsque Dieu place des désirs en nous, on a un bon père, puis il faut avoir confiance qu'il va vouloir répondre aussi à ça. Je pense qu'une partie de la réponse est dans ça, François. Puis, je pense aussi que Dieu m'a. Dieu nous a. Fait que je suis d'accord avec toi, mais je vais prendre ce temps-là où je n'ai pas un époux, je n'ai pas une épouse, pour comprendre mieux l'appel du célibat puis l'appel du mariage. Pour aller sonder ces désirs-là qui sont en moi, est-ce qu'ils sont nourris par une bonne vision du mariage ou quand je vais me marier, mon appel, ça va être de mourir à moi-même? Le mariage, c'est un appel à vivre moins libre pour servir Dieu puis plaire à ta femme. C'est ça la vérité. Fait que, est-ce que je réalise ça ou est-ce que je m'en vais dans le mariage en disant « Ah, j'ai trouvé la personne qui me comblera et me rendra heureuse. » Mais dans le Nouveau Testament, c'est dur de lire le mariage exactement comme ça. La personne qui te rendra heureuse puis que tu as marié, tu l'as marié quand tu t'es converti. Elle s'appelle Jésus. Ça c'est la personne que tu as marié puis qui va te rendre heureuse. Ou qui va te rendre heureux. Fait que j'ai l'impression que je prends ce temps-là pour examiner est-ce que je comprends vraiment c'est quoi l'appel au mariage? Est-ce que j'aspire au mariage parce que j'ai adopté des valeurs du monde qui me disent que l'être humain s'épanouit juste lorsqu'il y a un amour romantique, par exemple, ou bien si je ne suis pas capable de vivre une sexualité épanouie, je ne pourrais pas être heureux, ou un paquet d'affaires comme ça. Fait que je vais prendre le temps d'examiner d'où vient cette aspiration-là. Puis c'est un petit peu la réponse que j'avais donnée à Flore aussi l'autre fois. Comment on fait pour connaître, dans le fond, c'est quoi notre appel? C'est beaucoup dans la relation avec Dieu que je vais faire ça. C'est beaucoup dans ma communion avec le Seigneur, à prier régulièrement, à lire les Écritures, à examiner mon cœur, puis à laisser Dieu me parler à travers sa parole, à travers ce qu'il forme dans mon cœur. Puis là, il y a beaucoup de ce ménage-là aussi qui se fait dans cette aspiration-là. Et si à quelque part, cette aspiration-là, tu dis, je comprends bien, mon rêve, c'est de me marier pour illustrer l'Évangile dans cet appel-là. Donc cette aspiration-là a été sanctifiée, si je peux dire. Moi, je serais tout à fait en paix de garder ça dans la prière, de Seigneur. Quand ça va être le moment, ça va venir de toi. Il va y avoir quelqu'un pour moi, puis je garde ça dans la prière parce que j'ai un bon père. Tu sais, mais j'ai pris le temps d'examiner où est mon aspiration. En tout cas, j'espère que ça aide un peu à clarifier. C'est bon? Sam, brièvement, je m'excuse. Je suis en train de t'oublier. Oui.
Est-ce que
oui.
Tu es en train de dire qu'avant Jésus, le principe du moment présent n'est pas valable?
Pas avec le même emphase, c'est très clair. Selon moi, c'est très clair. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup, beaucoup de promesses qui sont liées à vieillir avec sagesse, puis à jouir des jours de ta vieillesse avec sagesse. Puis il y a vraiment une emphase sur le royaume qui est en train de s'accomplir est visible et terrestre. Puis le mystère d'un royaume qui est spirituel apparaît vraiment de plus en plus clair dans les prophètes. Au contraire, quand Israël entre dans la terre promise, il y a un sentiment d'accomplissement. On va terminer de chasser les peuples qui étaient là, on va terminer d'installer le royaume, puis il y a une espèce d'aboutissement où on est rendu. Puis à quelque part, si Israël avait vraiment été un fils aussi obéissant que Jésus, admettons, on est rendu. On savait que ce ne serait pas ça. À quelque part, il allait y avoir un autre Moïse qui allait venir, qui allait être Jésus, tout ça. Bon. Fait que non, dans l'Ancien Testament, il y a vraiment une emphase où on s'installe, puis on vit les principes, puis on glorifie Dieu à travers notre vie. Dans le Nouveau Testament, moi, je le sens pas, il n'y a pas de « on s'installe ». Oui. OK. C'est bien. Tu as le droit à ton opinion, là. Mais faut s'entendre, Sam. À tout moment, celui qui croit en Dieu doit vivre le moment présent avec Dieu. Ça, c'est clair. Est-ce que le croyant de l'Ancien Testament vivait dans l'expectative de partir à tous les jours, comme le croyant du Nouveau Testament après que le Messie soit venu? Non, clairement non. Ça, c'est très clair au niveau de la révélation. Fait qu'il y a quelque chose qui change, puis pas mal certain qu'une bonne partie de la théologie de Paul, puis bien comprendre la théologie de Paul sur le célibat, les pistes les plus importantes se trouvent là au niveau de l'eschatologie. Mais ma pensée n'est pas toute aboutie là-dessus. Donc on va à la leçon, on va compléter la leçon 2. Écoutez, soit dit en passant, c'est la première fois à l'Église de l'Espoir qu'on enseigne sérieusement sur le sujet. C'est un peu triste là, ce que je dis là, mais c'est la réalité, là, à ma connaissance, à tout le moins. Fait que c'est correct aussi s'il y a un petit peu d'ajustement dans ma session. Là. On va arriver à couvrir toute la matière, d'accord? J'aime mieux vraiment répondre aux questions importantes que vous avez puis que de passer à côté du sujet. Donc, pour compléter la leçon de la semaine dernière, on a commencé toute la première partie. Juste pour vous remettre dedans, on a tout parlé du don du célibat. Puis dans le passage, Paul va dire, il y en a un qui reçoit tel don, un autre. Donc, on a fait la nuance, don de célibat, même le don de mariage, même si Paul ne dit pas explicitement le don du mariage. Puis donc, on a traité toute cette question-là du don. La deuxième partie, c'est, voici ce qu'on avait écrit, c'est un don que Dieu donne pour un temps ou pour la vie, excusez-moi, je vais un petit peu plus loin, la liberté du célibat. Dans 1 Corinthiens 7, clairement, ça va encore dans cette tension-là eschatologique, là, où on vit dans l'expectative que Jésus revient. Clairement, Paul apporte l'idée que celui qui est célibataire vit une liberté par rapport aux soucis, vit une liberté pour servir Dieu, vit une liberté pour donner du temps pour Dieu. Donc, si j'avais une définition à donner du célibat, ce serait de dire, c'est une personne qui a été libérée par Dieu pour pouvoir le servir davantage et chercher à plaire à Dieu. Donc là, quelqu'un d'autre va me dire, non, mais moi, je cherche à plaire à Dieu en plaisant à ma femme. Oui, je suis d'accord. Ton focus est tout là. Il est dans ta maison, beaucoup, beaucoup. Ton énergie est beaucoup là. D'accord? Donc, c'est un appel qui est différent. Voici ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 7, versets 26 à 28. « Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. » Si l'apôtre Paul pouvait dire que les églises lui causaient bien des soucis, que dire de tous les époux, de tous les parents, de tous les professeurs sur la terre? Celui qui prend un engagement envers une personne, que ce soit mon épouse ou que ce soit mes enfants, s'engage pas à se soucier, dans le sens qu'on apprend à remettre nos soucis au Seigneur, d'accord? Mais en même temps, oui, à se soucier tous les jours de sa vie de ces gens-là qui sont sous sa responsabilité, que ce soit son époux, son épouse, ses enfants. Et donc, j'ai pris cette image-là. Paul disait beaucoup que les églises lui causaient beaucoup de soucis. Il se sentait responsable des églises. Mais il en va de même pour celui qui décide de se marier, qui est convaincu de son appel à se marier. Il va avoir des préoccupations à être là pour son épouse, pour son époux, puis si Dieu donne des enfants, pour les enfants aussi. Et ça va être comme ça tous les jours de sa vie. Combien de personnes ici sont parents? OK? Quand est-ce qu'on arrête d'être parents? Quand le Seigneur vient nous chercher. Je pense que ça s'arrête là. Je ne sais même pas si on arrête de l'être quand le Seigneur vient chercher nos enfants. Certains vivent des drames. Mais quand le Seigneur vient nous chercher. Puis c'est intéressant parce que tu le vis que tes enfants soient dans le Seigneur ou pas dans le Seigneur. Puis moi, j'ai le privilège de voir tout ça se passer. Puis ça va quand même toujours être une préoccupation. Tu vas toujours être là à t'occuper d'eux puis à vouloir prendre soin d'eux parce que tu as un engagement à la vie, à la mort avec tes enfants, mais évidemment surtout avec ton épouse, avec ton époux. Voilà, nous dit l'apôtre Paul, celui qui se marie portera bien des soucis car il se chargera du bonheur et du bien-être d'un époux, d'une épouse et de ses enfants pour la vie. Les non-chrétiens, écoutez ceci, qui refusent de s'engager dans le mariage, tiennent à se garder libres de quitter le navire s'ils n'y trouvent plus leur bonheur. Donc, dans un sens, les non-chrétiens qui ne veulent pas se lier avec des liens de mariage, avec un engagement à vie, sont peut-être plus lucides que certains chrétiens qui s'engagent dans le mariage. D'accord? Je ne suis pas en train de dire qu'ils font le bon choix, là. Je ne suis pas en train de dire que c'est un choix moral. Je ne suis pas en train de dire que c'est la bonne chose à faire. D'accord? Mais ils savent que ça peut être beaucoup de soucis, puis ils savent que prendre soin de l'amour entre un époux et une épouse, toute une vie durant, ça doit être pas mal de travail. Ils n'arrivent pas à le tenir pour quelques années. Fait que si tu veux le tenir pour la vie, ça doit être pas mal de travail pour arriver là. D'accord? Fait que je trouvais ça un peu ironique de réaliser quand même que des fois, il y a des comportements qu'on peut avoir comme non-chrétiens. Il y a quand même une lucidité qui est là, même si ce n'est pas la bonne orientation, même si ce n'est pas la bonne décision à prendre. Si le mariage est une image de la gloire de l'Évangile, nous nous y engageons à la vie, à la mort et avec joie. Et il y aura bien des soucis pour m'assurer que mon mariage reflète l'Évangile. Ça se pourrait que ma chair soit crucifiée, si c'est pour illustrer l'Évangile. Ça se pourrait à quelque part que j'y meure à moi-même, si je veux illustrer l'Évangile. Celui qui n'est pas appelé au mariage est libre de ses soucis et peut se consacrer à un autre appel. Deuxièmement, liberté de devoir plaire à son époux et à son épouse, à celui qui s'est marié. Paul dit dans 1 Corinthiens 7, 33, « Celui qui s'est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Voilà le mystère de l'homme et la femme mariée, plaire à son époux et s'y consacrer sérieusement pour la vie. Il en retourne de la manifestation de la gloire de Dieu dans le foyer. » C'est ça la réalité. Cette année, je prêche sur le cantique des cantiques. D'accord? Mais si je veux bien prêcher sur le cantique des cantiques, je n'ai pas le choix de dire, dans le mariage, il y a une sexualité épanouie qu'on doit rechercher puis tout ça. Mais si vous n'êtes pas marié ou si vous n'avez jamais été marié, peut-être que vous ne le réalisez pas, mais j'ai causé pas mal de soucis à pas mal de monde. Parce qu'il y a des couples qui ont décidé que cette affaire-là, on met un X là-dessus, c'est plus simple comme ça, de toute façon, on ne s'entend pas, il n'y a pas de plaisir là-dedans, fait que c'est fini, puis ça s'arrête là. Là, je leur dis, « Ah, vous n'avez pas compris le mariage, je suis désolé. » Puis on rouvre des vieilles blessures de couples, des fois, qui ont 10, 15, 20 ans de mariage. Puis il faut aller régler des problèmes pour pouvoir vivre le mariage entièrement. Parce que cette intimité-là, quelque part, elle doit être là. Fait que c'est la réalité, c'est que si je suis appelé à ça, je suis appelé à poursuivre ça. Et donc, mon focus pour le vivre, sérieusement, va me demander énormément d'attention, beaucoup d'énergie, beaucoup de dévouement, beaucoup de dons de moi-même. Un mariage heureux repose en grande partie sur un dévouement sincère et fidèle des deux conjoints à chercher à plaire l'un à l'autre. Or, celui qui est appelé au célibat est libre de cette responsabilité, nous dit l'apôtre Paul. Il est libre de chercher à plaire à Dieu. Avec une liberté qui n'est pas liée. C'est-à-dire que si Justin, c'était mon gars, il est un petit peu vieux pour être mon gars, je ne sais pas si vieux que ça encore, mais si Justin, c'était mon gars, on serait toujours dans un rapport où il serait en train d'évaluer si je donne vraiment un amour paternel. Puis chaque soir, quand je me couche, si c'est à la maison, je dois vivre avec cet examen de conscience-là tous les jours. Fait que tout mon focus pour dire « est-ce que j'aime vraiment Jésus? » Bien, une bonne partie de mon focus est beaucoup liée à Justin. Avec que ça clique ou ça clique pas. Fait que je vais y aller avec les enfants, ceux qui ont plusieurs enfants. Il y a certains de nos enfants avec qui c'est comme naturel, c'est simple. Puis d'autres, des fois, c'est moins simple, c'est moins évident. On dirait que comme faut trouver d'autres chemins pour vraiment se rejoindre, tout ça. L'amour est là, mais ça connecte moins facilement. Bon, bien, pour mon enfant, je vais mettre beaucoup de mon énergie, beaucoup de mon temps sur une seule personne à réussir à exprimer l'amour de Christ. Que ça clique ou que ça clique pas. Quand je suis marié, cette personne-là, c'est mon focus premier sur la terre pour exprimer l'amour de Christ, que ça clique encore ou que ça clique plus pantoute. Et donc, mon énergie est là pour refléter Christ, puis c'est mon mandat. C'est comme ça que je vais refléter Christ. Je vais le faire au travail, tout ça, mais charnellement, je peux prendre l'évasion de dire « Ouf, ça fait du bien de partir de la maison, je m'en vais travailler, les relations sont tellement plus simples. » Oui, parce que toutes ces personnes-là, tu ne te couches pas dans leur lit à chaque soir pour dire « Est-ce que cette personne-là trouve que j'ai bien reflété Christ envers elle aujourd'hui? » Je passe à un autre appel. C'est correct, ça n'a pas été super. On n'a pas besoin d'aller plus loin. On reviendra. Salut, collègue, on se revoit demain. Mon épouse, c'est tous les soirs. Et ça me demande de l'énergie. Ça vient me chercher en dedans. D'accord? Parce que il va falloir que j'y arrive. L'Évangile doit se vivre là. C'est ma responsabilité première. Et donc, je cherche à plaire à ma femme. Parce qu'en cherchant à plaire à ma femme, je suis en train de plaire à Christ. Si je n'ai pas à plaire à une personne, et que je suis libre de servir plein de gens, il n'y a pas cette même tension-là qui est présente. J'ai une disponibilité pour m'engager dans des relations, servir des frères et sœurs, servir des gens, aller à un autre endroit lorsque Dieu place quelqu'un d'autre sur mon chemin. J'accompagne quelqu'un dans la formation de disciples. On a fait un bout de chemin ensemble. Je m'en vais accompagner quelqu'un d'autre dans la formation de disciples. On va faire un bout de chemin ensemble. Et il y a vraiment une liberté qui est là. D'accord? Je comprends que vous allez peut-être me dire, oh, mais Yannick, tu es en train de nous dire que le mariage, c'est pas si hot que ça. Moi, j'ai commencé le cours en disant, je prie pour que certains d'entre vous réalisent leur appel au célibat, puis que vous disiez, ben, sais-tu, je pense que je suis pas appelé à cette affaire-là, en fin de compte. D'accord? Maintenant, la deuxième partie du cours, c'est les fréquentations. Fait que je veux vraiment jouer dans vos tripes. D'accord? On va parler de préparation pour le mariage. C'est pas ça que je veux faire. Je veux vraiment qu'on ait une pensée biblique. Paul n'est pas en train de dire quelque chose de léger. C'est pas une parole pour consoler les célibataires. C'est pas ça qu'il est en train de faire, d'accord? Il est en train d'illustrer quelque chose de réel. Puis, la majorité du temps, lorsque nous, on doit aider, admettons, des couples en difficulté, en réalité, on doit aider des individus qui, un ou l'autre, ont abandonné, renoncé à chercher à refléter Christ envers l'autre. La majorité du temps, c'est ça, d'accord? Quand il y a des couples qui se refroidissent, puis c'est plus là, puis on a des colocs qui vieillissent ensemble, à un moment donné, il y a un abandon. Puis notre mandat à nous, souvent, c'est juste de dire, « Hey, bonhomme, tu te rappelles-tu que la première personne auprès de qui tu dois refléter Jésus, c'est ta femme? » Puis une grande partie de notre travail, c'est ça comme intervenant lorsqu'on va aider un couple en difficulté. Donc, Paul n'est pas en train de donner une parole de consolation aux célibataires, là, ici. Il est en train d'illustrer la vérité. C'est que, c'est ça, tu vas chercher à plaire au Seigneur, mais en plaisant ta femme. Puis c'est correct. C'est bien. C'est mon appel à moi. Je suis heureux dans cet appel-là. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est appelé à ça. Puis, il y a vraiment une liberté tout à fait réelle pour celui qui est appelé au célibat de chercher à plaire à Dieu dans toutes sortes de circonstances, à travers toutes sortes d'opportunités. Et je pense qu'on pourrait le formuler comme ça. Je vais terminer avec ça. Celui qui est appelé au célibat a la liberté d'avoir un cœur non partagé. C'est-à-dire que sa préoccupation à travers toutes ses relations est beaucoup plus facilement sur Christ que lorsque moi, je dois être là avec mon épouse. Une belle manière de l'illustrer, là, ça va faire 20 ans là, que je suis dans le ministère, fait que j'ai accompagné des couples. Quand le mariage se fait tôt, okay, quand les deux sont assez jeunes, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais D'après moi, 50% des mariages, pour la jeune femme, lorsqu'elle est très jeune, pour la jeune femme, dans les 2-3 premières années, Dieu prend le bord. Il y a un nouveau Dieu dans sa vie, c'est son mari. Qu'elle le voit ou elle ne le voit pas. Culte personnel disparaît, beaucoup de difficultés. Il y a comme, c'est plus là, c'est toute son énergie, toute son attention est là, puis C'est pas que le gars le demande, il y a comme une espèce de transfert qui se fait. Puis là, à un moment donné, oh, elle sort des nuages, puis là, elle dit, OK, finalement, il n'est pas parfait. C'est correct, c'est une autre manière de revenir à Christ, mais reviens pas juste à Christ parce que ton mari t'a déçu. Reviens à Christ parce que Christ est, waouh, c'est lui ton époux pour de vrai. Mais je vous dirais, d'après moi, le 50% des mariages, l'épouse, il y a un déplacement qui se fait dans les premières années du mariage. Il y a des jeunes mariés ici dans la salle. Il y a un déplacement qui se fait dans le cœur, puis Dieu vient prendre la place. L'époux vient prendre la place de Dieu. Puis je l'ai observé, là, je vous le dis, là, tellement de fois. Fait que le cœur est partagé. Puis des fois, là, je parle avec des sœurs, là, elles sont conscientes de ça, là, elles sont tristes de ça. Mais leur cœur est littéralement partagé. Leur cœur n'est plus entièrement à Christ. Puis elle le dit, elle dit, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment le changer. C'est ça, on est des êtres relationnels. Fait qu'après ça, ils doivent chercher la maturité dans ça. Et donc, l'idée pour terminer cette leçon-là, c'était simplement un appel à embrasser notre appel. C'est un encouragement à embrasser notre appel avec joie. Si mon appel, c'est de me marier, je l'embrasse avec joie. Si je suis marié, mon appel, c'est le mariage. Je l'embrasse avec joie. Si mon appel, c'est le célibat pour la vie, j'ai une conviction profonde qui s'est installée, elle a été prouvée par le temps, je l'embrasse avec joie. Si mon appel pour le moment, c'est le célibat, je l'embrasse avec joie. Parce que c'est vraiment un don de Dieu. C'est vraiment un cadeau que Dieu fait. Pour reprendre le commentaire de François tantôt, ce n'est pas quelque chose qui est donné par un père qui est mesquin et méchant. C'est quelque chose qui nous est donné par un bon père. C'est bon? On va entamer la prochaine leçon. Donc, la première leçon, on s'est concentré sur notre identité, où se situe notre identité. La deuxième leçon, on s'est concentré sur la notion de don. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Avec ce que Dieu me donne, il y a un appel qui vient avec. Et donc, il y a différents dons, différents appels au mariage, au célibat. Troisième leçon, les relations maintenant. Comment est-ce que la personne qui est appelée au célibat, que ce soit pour un temps ou que ce soit pour la vie, comment fonctionnent ces relations chrétiennes? Parce que là, si on veut aller dans un domaine un petit peu plus concret, pour les célibataires, il y a toute la question des rapports, des relations. Comme on l'a mentionné au début du cours, moi, je trouve vraiment, malheureusement, les couples, donc ceux qui sont mariés, ont tendance eux-mêmes à créer une espèce de caste puis à se tenir entre gens mariés puis à s'inviter entre eux. D'accord? Et donc, je pense qu'on entretient quelque chose de malsain en ce sens-là. Tu invites un couple pour passer une soirée parce que tu es deux. Puis c'est drôle parce que quand j'étais en train de préparer ça, le cours est bâti beaucoup à partir d'un cours tiré de l'église Capitol Hill. Puis il soulevait lui-même des questions. Puis quand j'arrivais là-dessus, je disais, c'est tellement vrai. Mais moi, en y réfléchissant, je réalisais que dans notre couple à nous, Esther et moi, on n'a pas vraiment vécu ça. Fait que je l'observe, je le déplore, je ne le comprends pas à 100%. Dans notre expérience à nous, on a régulièrement eu des personnes qui étaient des personnes célibataires qui passaient dans notre vie. Fait que j'ai demandé la permission là, à Nathalie Valcourt si je pouvais partager juste notre expérience. Mais Nathalie, c'est une personne célibataire, c'est une femme célibataire de l'Église, puis c'est notre amie. Puis c'est comme Nathalie comme amie ou un couple comme amie, il n'y a pas vraiment de différence dans ma tête. Puis là, c'est une femme, fait que là, je parle comme gars, d'accord? Mais fait que si vous me dites, ouais, mais non, mais c'est l'ami d'Esther, puis comme tu es son ami parce que c'est l'ami de ta femme, bien, pas vraiment. C'est pas vraiment. C'est-à-dire, Esther, elle va déjeuner avec elle peut-être une fois par mois. Je ne vais pas déjeuner avec Nathalie une fois par mois, vous comprenez? Mais je veux dire, lorsqu'elle vient à la maison, on passe une soirée, on joue un jeu de société, puis elle s'en va, je ne suis pas là comme, boy, ça aurait été le fun d'avoir un gars ici ou d'être quatre. Je ne me souviens même pas d'avoir eu ce sentiment-là. Comme, oh, il y a comme un creux, tu sais. Donc là, est-ce que Nathalie, c'est l'amie d'Esther? Non, c'est mon amie aussi. Puis on a trouvé une maturité dans cette amitié-là qui fait que des fois, elle va me donner un coup de fil, puis elle va dire, j'ai des questions à te poser sur quelque chose, puis parce que, bon, ben, c'est moi l'analytique. Elle va chercher d'autres choses avec Esther, puis là, on jase un peu, puis après ça, je jase de ça avec Esther, puis on prie pour Nathalie, c'est très transparent tout ça. Il n'y a vraiment rien de malsain dans toute cette relation-là. D'accord? Fait que, oui, il y a des règles, on ne s'est pas arrangé pour se placer pour qu'il y ait quelque chose de malsain qui s'installe, mais c'est une amitié. Puis là, quand je me suis mis à penser à ça, j'avais d'autres noms qui venaient en tête parce que c'est pas. On l'a vécu aussi avec d'autres personnes qui étaient célibataires. Donc, personnellement, c'est quelque chose que je déplore. Dans le fond, on entre un peu dans ce sujet-là avec les relations dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, on va aborder des questions pratiques de la vie chrétienne. On va parler des relations et tout spécialement des relations chrétiennes. La vie chrétienne est une vie relationnelle parce que la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, demande à se manifester particulièrement dans nos relations. D'accord? Donc, ça va de soi. Lorsqu'on connaît Christ, notre relation avec Dieu va venir se déverser sur d'autres relations. C'est ça qui fait qu'on a de la difficulté à comprendre le mouvement monastique ou à l'intérieur même de ce mouvement-là. Certains d'entre eux ont eu des pratiques très, très isolées où les gens vivaient presque reclus même les uns entre les autres. Puis il y a eu des ermites qui allaient, il y a des moines ermites qui allaient vivre dans le désert, passer leur vie dans l'isolement complet dans leur relation avec Christ. Il y a quelque chose d'étrange dans ça parce que c'est pas. Ce que l'Évangile fait, c'est qu'elle conduit à l'amour du prochain, fait que ça conduit dans des relations. Fait que c'est étrange, c'est difficile d'entrer ça dans une pensée chrétienne. Je veux vraiment juste introduire le sujet, puis on va le développer dans deux semaines. Le fondement des relations chrétiennes. Nos relations avec les gens, puis là, je vais vous demander de faire un exercice, OK, juste avant de déposer ça, puis dans le fond, je vais vous laisser avec cette piste de réflexion-là. Les chrétiens avec qui vous vous tenez plus régulièrement, ce qui fait que vous êtes ensemble, c'est quoi? Est-ce que c'est vos affinités ou est-ce que c'est Christ? Je comprends que naturellement, on a tendance à se tenir plus avec des gens avec qui on a des affinités. Mais laissez-moi vous amener à un endroit où vous allez à peu près tous être capables de me suivre. Une fois que tu es devenu chrétien, puis que tu as découvert la profondeur des relations chrétiennes, où tu peux partager des luttes, des combats, confesser, prier ensemble. J'espère que vous avez expérimenté ça. Après, quand tu jases avec tes amis non chrétiens, ou dans ta famille, des membres de ta famille, de qui tu es proche, mais qui ne sont pas chrétiens, c'est pas juste que, avec tel membre de ma famille que j'aime beaucoup, qui n'est pas chrétien, je ne peux pas parler de Jésus. C'est pas juste ça. C'est qu'il y a des endroits où je n'arrive pas à aller. Il y a une communion dans laquelle j'ai de la difficulté à entrer. Si vous avez des super bons amis non chrétiens, ça se peut que ça aille très, très loin. Et on peut vivre une grande amitié. Moi, j'ai vécu des grandes amitiés avec des non chrétiens. Il y avait quand même beaucoup d'intimité dans ce qu'on partageait ensemble. Mais il y a une dimension qui n'est pas présente, qui n'est pas là. D'accord? Fait que le simple fait que je me trouve devant une personne qui a saisi qu'elle était pécheresse, qui a saisi que Dieu existe, qui a saisi la grâce de l'Évangile, il y a une espèce de rapport de profondeur qui tourne autour de la personne de Christ qui est totalement différent de ce qu'on va vivre à l'extérieur. Ça, c'est la richesse de l'Évangile. Fait que je reviens avec ma question. Les chrétiens avec qui vous vous tenez, c'est quoi qui fait que vous êtes ensemble, premièrement? Est-ce que c'est l'Évangile ou c'est vos affinités, actuellement? Je n'ai pas de réponse, là. C'est pour vous que je pose la question. Parce que le fondement des relations chrétiennes, c'est notre unité en Christ. C'est une personne. Je l'ai mentionné dernièrement dans un enseignement à Sola. Une église qui s'implante pour être une église cool pour les jeunes, puis juste pour les jeunes, puis tu rentres là, puis c'est juste des jeunes qu'il y a là. C'est une église qui n'est pas en mesure d'illustrer dans toute sa richesse l'Évangile. Une église où j'irais, où il y aurait juste des Caucasiens, des Québécois de souche, comme on les appelle, admettons, puis c'est tout ce qu'il y aurait là. Puis on verrait que les gens qui arrivent d'un peu partout dans le monde ont de la difficulté à s'intégrer là. C'est une église qui ne pourra pas illustrer dans toute sa richesse l'Évangile. Parce qu'on est en train de crier sur les toits que ce qui nous unit, c'est on est jeune, on est cool, on est hot, on est ouvert. Non, on est tous pareils, on a toute la même culture. Ce n'est pas ça l'Évangile. Ce qui nous unit, c'est la personne de Christ, c'est notre unité en Christ. D'accord? Et donc, c'est ça qui doit régner au cœur de nos relations. C'est pour ça que j'ai un malaise profond avec des couples qui vont dire à nous autres, tous nos amis, c'est des couples. On a juste des amis de couple, c'est tout. Puis nos relations sont là comme ça. Ah, OK, moi j'aurais aimé ça que ce soit Jésus-Christ qui soit au centre de vos relations chrétiennes, au lieu de votre statut marital. qui viennent définir vos relations. La même affaire avec des personnes célibataires qui vont dire « Je ne peux pas être en relation avec des gens mariés, je sors de là toujours malheureux. » OK, tu as besoin de grandir dans ton appel, tu n'as pas embrassé ton appel vraiment, même s'il est temporaire. Ça, je comprends. Mais c'est tes frères et sœurs en Christ, tu as tout pour être parfaitement uni avec eux. Et donc, ça c'est le centre. C'est Christ qui est la base de tous nos rapports, chrétiens. Et ce que ça va apporter, c'est que le but de nos relations chrétiennes, c'est premièrement l'édification. Donc, les chrétiens vont vivre des loisirs ensemble, les chrétiens vont s'entraider, les chrétiens vont faire des projets ensemble, mais ce qu'on recherche à travers toutes nos relations, le but premier, c'est de voir Christ être formé dans l'autre. C'est toujours ça. C'est ce qui fait qu'un chrétien peut être, je peux être l'ami de Justin, je peux être le pasteur de Justin, puis Justin peut venir me voir, puis il peut dire, Yannick, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, puis j'aimerais ça t'en parler. Il y a quelque chose qui me trouble dans ta vie, puis j'ai l'impression qu'il y a un péché qui est là. Parce que c'est notre unité en Christ qui définit notre rapport premièrement. Il n'y a pas un rapport d'autorité premièrement parce que je suis pasteur, il n'y a pas un rapport de marié, pas marié. Et c'est ce qui amène Paul à dire dans Galates, il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, parce qu'on est tous en Jésus-Christ. Et donc, ce qu'on doit poursuivre dans tous nos rapports chrétiens, c'est de voir Christ être formé dans l'autre. On va développer dans deux semaines un petit peu plus. Je dois m'arrêter ici, je suis désolé. Sorry, c'est comme une introduction. Vous allez avoir le mot de la fin, Mme Di Palma.
Le mot stimuler.
Oui. Stimuler, ça veut dire provoquer, dans le sens positif. Ça veut dire aider à grandir. Stimuler, ça veut dire juste pousser par en avant, mettons, dans ce contexte-là. D'accord? Fait que ça, c'est le but de toutes les relations chrétiennes. C'est bon? Fait que la semaine prochaine, à cause de l'action de grâce, il n'y a pas de cours. On reprend dans deux semaines. Vous allez pouvoir retrouver les notes sur le site web, les pistes audio sur le site web. Et puis, envoyez-moi vos questions, s'il vous plaît. Même si vous avez l'impression un peu que ça étire, comme je vous dis, on n'a jamais enseigné vraiment sur le sujet. Fait que ça me fait plaisir de m'adapter un petit peu pour répondre aux questions. On va terminer avec un mot de prière. Seigneur, notre Dieu, tes desseins sont parfaits, Seigneur. Comme on se l'est rappelé, tu es un bon Père qui ne nous donne pas de mauvaises choses. Tu nous donnes de bonnes choses, Seigneur. Et les dons que tu nous donnes sont des manifestations de ton amour, de ta grâce, de ta tendresse, Seigneur. Même si parfois, ça peut être difficile à accepter. Père, je veux te demander de nous aider à laisser notre esprit être transformé pour que nous voyions le célibat, nous voyons le mariage bibliquement, et que nous voyons le célibat comme chrétien et le mariage chrétien d'une manière totalement différente de ce qu'on peut recevoir du monde, de nos idées préconçues, et même profondément transformé par la venue de Jésus, différente de ce qu'un juif de l'Ancien Testament aurait pu comprendre vraiment de ces choses, Seigneur. Je prie, Père, de faire une œuvre profonde dans nos cœurs afin que nos vies soient transformées, notre manière d'être en relation les uns avec les autres dans l'Église soit transformée, que lorsqu'un non-chrétien entre en contact avec nous, qu'il soit marié ou qu'il soit seul, qu'il saisisse qu'il entre en relation avec une communauté complètement différente, façonnée par une autre vision des rapports humains. Merci pour tes grâces, Seigneur. Fais-nous grandir en toi, Seigneur Jésus. Amen.